Alors, bonjour et bienvenue à notre émission au rythme de l'Église de ce dimanche. Ici Soredna Thomas, je serai l'animatrice de cette émission. Alors, cette semaine, nous avons dû vivre un événement un peu douloureux pour notre diocèse avec le décès de Mgr Gérard Dion à l'âge de 100 ans et 11 mois. Alors, pour nous en parler, j'accueille notre évêque, Mgr Claude Champagne, qui a voulu accepter de nous en parler. Alors,
bonjour. Bonjour et bon dimanche, Edna.
Merci. Alors, même si on aurait voulu garder Mgr Dion encore bien des années avec nous autres, on est très reconnaissant de l'avoir gardé aussi longtemps. Il faut dire que ce n'est pas, faut admettre que c'est pas un décès qui est arrivé à l'improviste.
Bien, il était encore vraiment en excellente forme au moment qu'on a fêté son centenaire au mois de juin l'an dernier. C'est avec l'automne, parce qu'il a même voyagé, il est allé à Chicoutimi, même après cette grande fête-là ici. Mais avec l'automne, je pense qu'il y a eu une pneumonie qui l'a laissé plus vulnérable, plus fragile. Il est revenu, si ma mémoire est bonne, à l'Hôtel Dieu. Mais là, je pense que rapidement, on a jugé bon qu'il soit de l'autre côté à Jérôme Le Royer. Et il y a quelques mois, on nous disait qu'il n'est pas encore en fin de vie, mais il est passé à l'hôpital d'Edmondston aux soins palliatifs. Et là, bien, c'est le fait que, par exemple, on ne pouvait plus le voir. On peut encore communiquer par téléphone, par courriel, mais il y avait seulement une personne qui était autorisée à se rendre présente auprès de lui.
Toujours à cause du coronavirus.
Bien, le coronavirus a joué un rôle dans les derniers mois de sa vie. Il n'en a pas souffert, mais les conditions à l'hôpital étaient modifiées à cause de ça, bien sûr.
Alors, Mgr Dion, on peut dire que c'était vraiment un personnage un peu spécial. Il est très connu dans notre...
Oui, bien, vous savez que de tous les évêques d'Edmondston, c'est le seul Brayon de naissance.
C'est vrai.
Les autres, c'est des Brayons d'adoption. Alors, lui, il était né dans ce milieu-ci. Il a grandi dans ce coin-ci. Donc, tous les liens qu'il a créés depuis si longtemps. Et une fois prêtre, alors je sais qu'il a été au moins curé à Notre-Dame des Sept Douleurs. Est-ce qu'il a été aumônier à l'Hôtel Dieu aussi?
Donc, chez les sœurs Maristes aussi,
chez les sœurs Maristes et même les sœurs du Saint-Sacrement. Oui. Alors, et de là, on a jugé bon, je pense qu'il est allé étudier à Rome, en droit canon.
C'est ça.
À son retour, il a servi à la conférence des évêques catholiques du Canada. Il s'occupait du bureau d'Amérique latine. Et est-ce que c'est là qu'on l'a bien connu, on l'a vu comme épiscopable? Et on l'a nommé évêque auxiliaire du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Il s'occupait du secteur francophone et vivait à Sudbury, Ontario. Il a été là quand même une dizaine d'années. Et de là, il a été nommé évêque d'Edmondston en 1984, dans ce coin-là à peu près. Et il a été là jusqu'à 75 ans. Et comme un évêque catholique doit offrir sa démission au pape à 75 ans, il l'a fait. C'est pas qu'il n'était pas bien de santé, il a duré encore 25 ans.
Il nous a prouvé qu'il était bien.
Il était en mesure. On dit qu'il est jeune et qu'il était fragile de santé. Mais il a atteint le centenaire. Ouais,
il disait ça parfois. Je ne suis pas décédé quand que c'était le temps. Puis là, je ne sais plus comment
j'ai perdu, je ne sais pas comment ça doit se faire, c'est vrai.
Ouais, son humour. Hein, c'est,
ben mon Dieu, à chaque homélie qu'il nous faisait, on savait qu'il y aurait une pointe d'humour, en quelque part, en tout cas. Et vous savez que ces homélies, en tout cas, moi, toutes les fois où je l'ai entendu faire l'homélie, il n'y avait pas de texte. Et ça se tenait, hein? C'était pas de l'improvisation. On sentait que c'était bien réfléchi, bien pensé, et ça se développait d'une manière tellement continue. Il y avait donc une très grande maîtrise, en tout cas, de ces sujets, et en tout cas, sa façon. Il faut se souvenir que même au centre, quand il a fêté 100 ans, il a demandé de présider l'Eucharistie et de faire l'homélie. Et même s'il ne se sentait pas bien avant la célébration, l'homélie a été remarquable, c'est vrai.
Ouais. Quand on lui demandait, beaucoup de gens lui demandaient ses notes d'homélie, bien, il disait, il faudrait que je vous donne ma terre.
Exactement. Et c'est pas, si, c'est pas tout le monde qui a cette habileté.
Alors, au niveau de l'héritage, si on s'interroge un petit peu.
Demain, moi, je l'ai connu depuis 10-11 ans surtout. Je l'ai connu depuis que je suis à Edmondston. Il me semble qu'il est demeuré tellement intéressé par la vie de l'Église et sa mission. Jusqu'à récemment, il suivait toutes les nouvelles du monde de l'Église du Canada, de ses évêques. Il me parlait de ça, puis il en savait plus que moi, des fois, parce qu'il suivait ça de très près. Puis, il est demeuré... Tu sais, on ne parlait peut-être pas comme ça dans sa jeunesse, d'être ensemble des disciples missionnaires, mais dans les faits, il me racontait que même à l'hôpital, un des médecins n'était pas de foi chrétienne. Et il y avait cette préoccupation de témoigner de sa foi. Puis il disait, moi, quand je vais mourir, en tout cas, Dieu, pour moi, c'est un père. Je me tourne vers mon père et c'est un père plein de miséricorde et de tendresse qui m'accueille. Alors ça, il était dans son lit d'hôpital et tout bonnement, il parlait de ça puis en témoignait avec le personnel, avec ce médecin-là en particulier. Donc, il sentait comme une responsabilité missionnaire jusqu'à la fin. Tu vois, on dit un apôtre, et l'apôtre jusqu'à son dernier souffle. Il témoigne de sa foi dans le ressuscité, puis dans le Père du ressuscité.
Ouais. Non, il a été très apprécié aussi, puis sa simplicité.
Ben, on l'a vu, comment les gens réagissaient quand on a organisé la fête du centenaire. Et il y avait plus de monde qui voulait être là que de place qu'on pouvait accueillir. Et je pense encore, il y a une semaine, 10 jours, quand il a écrit son message, il a écrit un dernier message à sa famille, puis un dernier message à ses frères et sœurs de la communauté chrétienne.
C'était spécial.
Et bon, alors, tu sais, il a eu la force de rédiger ce dernier message, et on voyait la réponse. On avait dit, écoutez, lui, il ne vous répondra pas si vous écrivez. Mais il reste qu'il y a eu, une avalanche de gens qui ont réagi pour exprimer leur appréciation puis leur gratitude. Oui. Et c'était bon que ça se passe avant même sa mort. Tu sais, on disait toujours, on dit tellement de belles choses au salon funéraire que la personne puisse les entendre de son vivant. Il me semble que c'est précieux.
Oui. Puis c'est spécial aussi parce qu'il y avait tellement invité de monde à ses funérailles. Puis on... C'est ça tombe comme ça que...
C'est ça, on ne pourra pas avoir de funérailles épiscopales. C'est Mgr Conway, je pense, qui disait que les funérailles d'évêques, c'est très, très beau et on devrait en avoir plus souvent. Mais bon, cette fois-ci, est-ce qu'il y aura à la fin de la pandémie une célébration où on va rassembler tous ses amis? Il est évident qu'un peu comme pour tous les autres qui décèdent de ce temps-ci, on est limité au minimum. On ne peut pas faire des choses, c'est encore maximum de 10 personnes pour un rassemblement dans la province. Donc, c'est évident qu'on ne peut pas envisager ce que peut-être on aurait rêvé pour lui. Bon, est-ce qu'à la fin de tout ça, on pourra dire, bon, il serait bon de se réunir? Possiblement. Mais pour le moment, ça va être le plus simple. Et vous savez que les restes de Mgr Dionne iront rejoindre les trois premiers évêques et Mgr Conway dans la crypte au sous-sol de la cathédrale.
Alors, j'ai vu passer plusieurs messages, quelques prêtres, je pense à le père Roger Dionne, le père Paul Paradis de Grand-Sceau, beaucoup de prêtres qui ont célébré pour lui aujourd'hui.
C'est
alors,
très beau.
Même si
c'est
on ne peut pas avoir de funérailles, il va en avoir.
Bien, on prie pour lui. Si on ne peut pas avoir de grands rassemblements, il faut être conscient que tous les prêtres et l'évêque du diocèse célèbrent quotidiennement pour l'Église d'Edmondston et pour toute la communauté. On espère se rassembler bientôt. Bon, mais pour le moment, on fait avec la situation, bien sûr. Oui.
Alors, en attendant de pouvoir lui offrir nos hommages par le biais d'une messe de funérailles, est-ce que vous auriez quelque chose à dire?
Ben, mon Dieu, je pense qu'en tout cas, on peut exprimer notre gratitude au Seigneur de nous avoir donné un tel frère. Mm-hmm. Tu dis, Seigneur, en tout cas, tu nous as donné un témoin authentique, un bon pasteur aussi qui a pris soin de son troupeau et qui a continué. Je suis sûr que durant l'épiscopat de Mgr Thibodeau et le mien, il est demeuré là comme un grand frère, quelqu'un qui, en tout cas, portait... Jusqu'à récemment, il venait encore à nos rencontres de prêtres. Et participait à tout ça, les sessions de formation, les retraites. Tant qu'il était capable, il est venu.
Il était vraiment très présent.
Oui, il s'est montré très solidaire. À la fin, il y avait peut-être un petit problème d'ouïe, ce qui fait qu'il me disait, écoute, ça doit être très beau ce que vous dites, mais je ne l'entends pas. Mais tout le temps où il a pu le faire, il a été présent au prêtre et à son église. Oui.
Alors, c'est sûr que 10 minutes pour parler de Mgr Dionne, c'est pas long. Alors, merci, Mgr Champagne, de vous être prêté à ce tour de force. De
ça m'a fait plaisir, Serena.
Puis, on va vous souhaiter à tous et à toutes une bonne semaine. Et puis, on compte sur vos prières, quand même, pour le repos. On sait que déjà, on peut prier. Mgr Dionne, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça dernièrement. On prie pour lui, mais on peut déjà le prier parce qu'on considère que c'est vraiment un homme de très grande valeur. Alors, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine pour une autre émission au rythme de l'Église.